Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Il existe des guerres invisibles, celles que l'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Et justement, mon invité du jour, Thomas Gomard, qui a écrit Les guerres invisibles, c'est le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. C'est finalement une personne qui fait de la géopolitique, qui conseille les hommes d'État, les politiques de manière générale, en France mais aussi à l'étranger, sur la manière de gérer les relations entre les pays. Et moi je trouve ça extrêmement intéressant, voire passionnant, de comprendre les dynamiques entre la Chine, entre l'Asie de manière générale, l'Afrique, évidemment le continent africain, le continent américain, les États-Unis, l'Europe, comment ça fonctionne tout ça. Il a une manière de raconter le monde, de voir le monde qui peut être différente de la vôtre, mais en même temps qui est réelle et qui est celle de ceux qui sont au pouvoir, ceux et celles qui sont au pouvoir d'ailleurs. Il a écrit l'année dernière un bouquin qui s'appelle L'affolement du monde, pour lequel il a gagné le prix du meilleur livre de géopolitique. C'est quelqu'un d'extrêmement passionnant et j'espère que la conversation va vraiment vous intéresser parce qu'elle est, profonde. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Thomas.
Bonjour Grégory.
On va parler de géopolitique et je crois que la première question qui peut sembler un peu simple et en même temps qui me semble essentielle, c'est de redéfinir ce que c'est que la géopolitique.
Ah, c'est une question qui est évidemment essentielle, mais pas si simple parce que c'est une notion qui ne fait pas... Qui est comment dirais-je, à l'origine de plusieurs débats universitaires, mais la définition la plus simple, c'est peut-être celle de Thierry de Montbrial, qui définit la géopolitique comme l'idéologie relative au territoire.
D'accord.
Et en ce sens, la géopolitique se distingue de la politique internationale, qui peut se définir comme ce qui relève de l'activité quotidienne des diplomates et des militaires. Dans la politique internationale, si on continue la déclinaison, il y a ce qui relève de la diplomatie à proprement parler et ce qui va relever ensuite de l'activité militaire, etc. On peut décliner ainsi, mais l'idée de la géopolitique, c'est que ça relève fondamentalement des représentations spatiales.
Et justement, dans votre livre, donc Guerre invisible, vous faites mention des guerres mondiales en disant finalement, ces guerres mondiales, elles sont mondiales principalement pour l'Europe, pour les États-Unis, mais finalement en Asie, même s'il y a eu évidemment le Japon, finalement c'est pas vraiment mondial. C'est mondial en étant ethnocentré, pas ethnocentré, mais plutôt européanocentré. Est-ce que c'est vraiment ça ce qui s'est passé? C'est-à-dire que finalement la réalité de l'Asie à ce moment-là de l'histoire, c'est pas les guerres mondiales?
Alors c'est pas tout à fait ça que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que la réalité du conflit pour les pays asiatiques, Japon, Chine, Philippines, Malaisie, etc., elle a été extrêmement réelle. Bon, et que en fait la particularité de la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément de cette tenue à la fois sur l'espace, je dirais, atlantique et sur l'espace pacifique. Et en particulier, ça a une dimension extrêmement importante en termes navals. Le fait que c'est une guerre qui s'est tenue sur mer, dans les airs, sur terre, avec en particulier sur terre l'affrontement frontal entre l'Allemagne et l'URSS. Donc, si vous voulez, c'était pas du tout de dire que les guerres mondiales ne concernaient pas les pays asiatiques. Au contraire, ils sont des acteurs de tout premier plan. Et la première guerre après la Seconde Guerre mondiale, où on est passé à deux doigts de l'affrontement nucléaire, c'est précisément la guerre de Corée. Et d'ailleurs, je pense que nous sommes aujourd'hui dans le cycle stratégique ouvert par la guerre de Corée en 1950. On y reviendra peut-être. Ce que j'essayais de dire dans le livre, c'est que nous, Européens, construction chronologique, notre manière de raconter l'histoire, notre récit, au fond, ce à quoi nous nous rattachons, est effectivement très lié à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, alors que pour les pays asiatiques, sans encore une fois diminuer l'importance que la Seconde Guerre mondiale a pu avoir, ce qui est beaucoup plus important dans le récit qu'ils font aujourd'hui du XXe siècle, c'est le processus de décolonisation. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire que là où les Occidentaux ont une lecture basée sur les deux guerres mondiales dont ils sont sortis vainqueurs, enfin pour les Américains et les Britanniques, les Asiatiques au sens très large, mais là aussi il y a des différences nationales très fortes selon que l'on parle au Japon ou à la Chine ou à d'autres acteurs régionaux. Pour ces acteurs-là, la date peut-être qui fait démarrer le XXe siècle, c'est 1905, lorsque la flotte japonaise détruit la flotte russe à Tsushima. Et c'est au fond le point de départ d'un processus de décolonisation par rapport aux puissances occidentales.
Et vous parlez, vous, d'un éveil politique de l'Asie. C'est ça, en fait. C'est vraiment de ça qu'il s'agit.
Oui, voilà, c'est en ce sens. Alors, c'est d'ailleurs pas simplement l'Asie, c'est aussi les pays d'Orient. Donc, tout ça, c'est toute une historiographie, si vous voulez, qui s'est développée au cours des...